dans le livre d'Osée, dans le prophète Osée. Je ne sais pas si vous le lisez souvent, mais il y a des perles dans ce petit prophète qui sont fabuleuses. Dans Osée 11, verset 4, voilà ce que nous lisons. Donc, le livre d'Osée, c'est après les grands prophètes, 11, 4. Et c'est un verset qu'on peut s'approprier, mais aussi on peut penser à nos enfants, à nos amis, nos voisins, nos familles qui ne connaissent pas encore le Seigneur. « Je les ai tirés », donc c'est Dieu qui parle, « je les ai tirés avec des liens d'humanité, avec des cordages d'amour. » Voilà, cette première partie, Osée 11.4. Dieu dit « je les ai tirés ou attirés avec des liens d'humanité et avec des cordages d'amour. » En fait, Dieu nous attire et veut sans cesse nous attirer à lui. Dieu est un Dieu de grâce. Voilà, je les ai tirés avec des liens d'humanité. C'est intéressant, hein, de savoir que Dieu veut toujours nous attirer à lui, mais comment ? Avec des liens d'humanité. Il n'y a pas souvent la grosse voix qui vient du ciel, qui dit quelque chose. Enfin, peut-être certains vous l'avez entendu, mais Jésus a reçu cette voix divine du Père céleste à son baptême. Mais Dieu nous tire et n'a de cesse de nous tirer avec des liens d'humanité. En fait, il nous a rejoints au travers de Jésus, dans notre humanité, vous le savez, j'espère, là où tu en es, et il nous a attirés à lui. Et il veut le faire pour ceux que nous côtoyons, ceux pour qui nous prions, qui n'ont pas encore la connaissance de l'Évangile, avec des liens d'humanité. Et on ne va pas leur dire, il y a l'enfer qui se précise pour toi, hein, si tu fais rien, on va leur dire, mais il y a des liens d'amour pour toi. Dieu veut attirer, te tirer à lui avec des liens d'humanité, là où vous en êtes, là où tu en es. Et ça, c'est génial. C'est extraordinaire. En 2020, laissez-vous, j'ai envie de vous dire, laissons-nous attirer par ces liens d'humanité au Seigneur. Attirer à lui. Alors moi, je nous encourage dans ce sens-là. Seigneur, vas-y, attire-nous, attire-moi. Il y a des fois, je n'ai pas envie d'être tout près de toi. Je sais pas, c'est peut-être ce que vous avez dans vos pensées. Mais laissons-nous attirer par ces liens d'humanité. Puis comment il va le faire? Alors ça, c'est génial parce que ça lui appartient. Dieu, il a plein de moyens divers et variés et infinis pour nous attirer à lui. Chaque personne dans cette pièce a un témoignage de l'amour de Dieu qu'il a attiré à lui. Peut-être certains vont dire, moi j'étais désespéré, il m'a pris à lui. D'autres, et puis c'était mon cas, je ne le cherchais pas du tout, mais il m'a attiré à lui, à travers d'autres personnes, à travers le message de l'Évangile, etc. D'autres, c'était sur Internet, etc. C'est fabuleux, tous ces moyens qu'il a. Tout ça, ça fait partie, pour cette nouvelle année, des liens d'humanité. Alors, je souhaite que vous soyez liés, et moi aussi, par des liens d'humanité qui viennent du Seigneur. Faisons-en, pourquoi pas, une prière. Seigneur, attire-nous à toi. Le cœur de mon message ce soir, c'est... La technique devrait jouer. Les secrets des psaumes. Les deux derniers messages que j'ai donnés, enfin, encore avant, parlaient du psaume premier, des secrets de la parole de Dieu. Et là, moi, celui d'avant, c'était aussi que quand on s'approche de la présence de Dieu, psaume 9, je crois, eh bien, nos ennemis deviennent les ennemis de Dieu. Ça veut dire que, attention à eux, il va les écraser, les renverser, les faire disparaître. Et puis, mon nouveau psaume pour cette année, c'est un des psaumes les plus connus, c'est le psaume 22. Et ce 22, le thème de mon message ce soir, et vraiment je vous le souhaite de tout mon cœur, c'est de découvrir les secrets ou le secret des psaumes. Dans les psaumes, il y a des choses extraordinaires. L'évangile, c'est, ou le royaume de Dieu, c'est comme un trésor. Vous vous rappelez cette parabole de Matthieu 13 où Jésus raconte qu'il y a un homme qui a trouvé un trésor. Il a trouvé un trésor. Je ne sais pas comment vous êtes, si vous trouvez un trésor, un truc extraordinaire. Moi, je pense que je serais assez survolté, hyper survolté. Il faudrait me donner des médicaments à fond. Mais j'imagine trouver quelque chose d'extraordinaire. Eh bien, dans cette parabole, il est tout fou. Je ne sais plus si c'est un marchand ou en tout cas quelqu'un qui trouve ce trésor dans Matthieu 13. Et puis, il va vendre tout ce qu'il a. Il va vendre tout ce qu'il a et puis il cherche absolument à acquérir ce trésor. Donc, il donne tout. Et le royaume de Dieu, si tu l'as pas encore découvert et fait sa connaissance, eh bien c'est comme un trésor inestimable dans lequel il y a plein de trésors et de choses extraordinaires. Donc, tu as meilleur temps, dit Jésus, de te détacher de tout ce que tu as, de tout ce que tu es, et de tout donner pour accueillir ce trésor. Vous m'entendez bien, hein? De tout donner, de tout lâcher, et dire, waouh, Seigneur, je le veux, ce trésor. Eh bien, dans les psaumes, il y a, ou plutôt les psaumes, c'est un peu des trésors comme ça, à découvrir, et qui sont extraordinaires. Et dans le psaume, donc le secret des psaumes, ce soir, 5 janvier 2020, le secret des psaumes, on va essayer de creuser un petit peu tout ça. Ça va nous alimenter pour la louange de tout à l'heure. Donc le psaume 22, c'est celui sur qui je m'appuie. On va pas tout lire, parce qu'il est assez long, mais on va s'arrêter comme ça sur plusieurs points et sur sa structure. Peut-être ça va parler aux matheux ce soir. Il y en a qui sont plus matheux, je sais, parmi nous. Peut-être ça va. Je vais faire un graphique. Puis en même temps, ce qui est extraordinaire, enfin, je vous dirai les perles que j'ai, quelques perles que j'ai découvertes dans ce psaume. L'auteur, c'est David, le roi David, comme d'autres psaumes, et il parle de lui, il parle de ce qu'il vit, puis il est tellement rempli du Saint-Esprit que ce psaume, il va déborder sur Christ, il va déborder sur ce que Jésus va vivre, on est 800 ans avant à peu près, et il va déborder sur nos vies, il va déborder sur son pays, son peuple, il va déborder sur la Suisse. Ce psaume, il est tellement extraordinaire, il embrasse tout ce qu'on peut vivre. Alors, il insiste sur la présence de Dieu et la présence salvatrice du Seigneur. Dieu aime nous sauver. Et dans ce psaume, il y a le salut. On va voir aussi qu'il y a 3 clés de vie, ou on pourrait dire 3 clés de révélation, d'éclairage, qui nous montrent comment est Dieu, comment est le cœur de Dieu. Moi, ça me passionne tout ça. Et puis, c'est un psaume messianique, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire on voit Christ à travers les lignes ou directement. Et on voit l'œuvre de la croix. On voit même comment Christ souffre sur la croix. Et puis, on va voir que ce psaume, en fait, c'est extraordinaire parce qu'il y a une intemporalité, où il y a une infinie. Il est dans notre finitude temporelle, liée à la montre et à ce qu'on vit, à notre âge personnel. Et puis, toutes les générations peuvent le prendre. Et on peut voir le cours de l'humanité. Quoi, dans un seul texte? Oui, vous allez voir, on va voir le cours de l'humanité. Alors, chut, il faut rien dire, c'est un secret. Vous le gardez pour vous ou vous le dites, peu importe. Mais il y a un secret qu'on va essayer de découvrir ensemble, n'est-ce pas? Alors, faut pas que je me perde là dans ce que j'ai noté. On va essayer d'être bien structuré. Le psaume commence ceci. Mon Dieu, comme ceci. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ça vous dit quelque chose peut-être. Au verset 4, pourtant tu es le saint. Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Un petit peu plus loin, au verset 13, de nombreux taureaux sont autour de moi. Des taureaux du Bazan m'encerclent. Verset 15, mes forces vont comme l'eau qui s'écoule. Et tous mes os se disloquent, mon cœur est comme de la cire, il se liquéfie au fond de moi. Ma force se dessèche comme l'argile. Peut-être vous avez vécu des épreuves ces derniers temps, vous avez dit, mais où sont mes forces? On a dans ce psaume une identification à notre humanité extraordinaire. Si tu souffres ce soir, prends ces paroles, dis, ouais, j'ai le droit de souffrir, enfin j'ai le droit, pas si on peut dire ça comme ça, mais la souffrance, elle fait partie de l'humanité, Christ l'a soufferte, et il va nous emmener plus loin. Il y a aussi le verset 22, la fin du verset 22, ces 4 mots, tu m'as répondu. Waouh, 4 mots qui sont le tournant du psaume. Et verset 25, il ne méprise pas, il ne repousse pas le malheureux dans sa misère. Et puis au verset 31, par exemple, leur descendance te servira, on parlera du Seigneur à la génération future. Vous voyez, on a tout le paysage là, avec un horizon infini, extraordinaire. Le secret des psaumes. Si on pouvait faire un graphique, la petite flèche, si vous pouvez la voir, un graphique en 2D, où vous avez d'un côté à gauche la présence de Dieu qui est appelée à s'intensifier. C'est pas très correct de dire la présence de Dieu dans le sens que Dieu est là de toute façon, mais en plutôt, on va dire la manifestation de la présence de Dieu à nos côtés, qui se tient là de manière active et constatable. Hein, on fait un graphique, encore une fois, avec en bas, c'est quoi, abscisse ordonnée? Abscisse? Vous voyez mon niveau en maths. Hein. Imaginons que la présence de Dieu, eh bien, elle soit de manière quantifiable, de manière verticale, et puis à l'horizontale, eh bien, on a le temps, par exemple. Notre temps, ça peut être ta vie, ça peut être la période dans laquelle tu vis, ou ça peut être l'échelle d'une nation, etc. Peu importe. Eh bien, par exemple, la présence de Dieu, elle pourrait être un peu comme ça. Ça va au haut et en bas, et ça s'intensifie, puis ça va vers l'éternité, parce qu'on est appelé à vivre l'éternité, en tout cas l'infini, dans la présence de Dieu. On va expliquer un petit peu tout ça, parce que ça, c'est le psaume 22. Pour toi, pour moi, pour ma vie, pour ce que je peux traverser. Par exemple, si on découpe ce psaume 22 en parties, eh bien, il y aurait les parties que j'appelais 1 et 7. Ça correspond pas au verset, mais c'est les versets. Alors, la première partie, c'est les versets 1 à 3, ou 2 à 3, si vous voulez, parce que le 1, c'est juste l'introduction. 1 à 3, et puis la septième partie, pour moi, vous pouvez faire une découpe, si vous voulez, à la maison, mais c'est le verset 20 à 22. Alors, on peut la chiffrer comme ça sur mon graphique. La partie 1, ça serait une partie supplication. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Vous avez déjà dit ça au Seigneur ? Parce que Dieu sait tout quand même, il est souverain. Hein ? Et ça peut vous arriver, ça peut nous arriver de dire, mais j'ai l'impression que tu m'as abandonné, où es-tu ? Il y avait une personne à Noël qui a demandé la prière, qui a dit, mais j'ai l'impression que Dieu n'est plus là dans ma vie. J'ai l'impression que je me suis éloigné de lui, ou lui s'est éloigné de moi, etc. Ce sentiment-là, qui est pur, qui est vraiment humain, ça veut pas dire que c'est péché, hein, de penser comme ça, mais ça peut nous habiter dans notre vie, voilà. Pourquoi tu m'as abandonné dans cette situation? Et on peut le lui dire, il sera pas vexé de cela. Ça serait aussi, par exemple, la partie, donc 7 pour moi, la partie 7, ça serait aussi une supplication. Protège mon âme contre l'épée, ma vie contre le pouvoir des chiens. Sauve-moi de la gueule du lion et des cornes du buffle. Waouh, c'est intense, cette supplication. Et là, je vous dis un secret des psaumes. C'est qu'on peut supplier au Seigneur. On peut crier à lui. Tu fermes ta porte, tu vas dans la nature. Seigneur, dans cette situation, je crie à toi. Je ne vais pas crier dans le micro parce que, voilà. Fils de David, aie pitié de moi, l'aveugle. À Jéricho, aie pitié de moi, Seigneur, faut que tu viennes. Et vous savez quoi, je crois que Dieu, il aime ça. Il aime quand notre prière, elle est engagée, elle est intense, elle est avec nos tripes, on dirait ça aujourd'hui. Hein. Et je crois que Paul, il priait pour son peuple avec cette intensité-là. On a le droit de faire ça, parce que les gens autour de nous, on a des ennemis qui sont là, spirituellement intenses, qu'il faut fermer la bouche. Alors ça serait une première partie, par exemple. 1 et 7. Et puis, il y aurait une partie que numéro 4 qui serait, pour ceux qui prennent les notes, les versets d'accusation, une partie d'accusation qui est là, verset 7 au verset 9, où on se rend compte, en fait, qu'on n'est pas grand-chose dans notre humanité. Mais moi, je suis un ver et non un homme, la honte de l'humanité, celui que le peuple méprise. Avoir un sentiment où on se sent méprisé, où on se sent moins que rien, on se sent paillasson, parce qu'il y a eu insulte. Hein, je ne veux pas tomber dans la pite aiguë, comme dirait Michel Allard, mais il y a des fois des situations de vie où on n'emmène pas large. Quoi, hein, on a un ennemi, et des fois, ses coups sont assez forts, ou ses flèches sont assez pointues pour nous faire du mal et du tort. Alors, c'est ce que dit David ici. Et puis, il y a même on a l'impression que l'ennemi siffle à ses oreilles. Verset 9, recommande ton sort à l'Éternel. L'Éternel te sauvera, il te délivrera, puisqu'il l'aime. En fait, tu vois ta parole, tu as la Bible avec toi. Puis, qu'est-ce que t'en fais? Ça sert à quoi que tu l'aies? Regarde ton état. Ça, c'est profondément humain et dans notre humanité. Et remarquez, moi, je ne pense pas qu'à ce niveau-là, c'est du péché de déclarer sa faiblesse, de se rendre compte de notre état de misère, parce que c'est ce qui a déclenché l'amour de Jésus, c'est ce qui a déclenché la croix, Père, je vais aller les sauver. Je vais donner ma vie pour eux. Ils sont dans la misère. Je me mets dans un état de misère humaine, de terrible, pour les rejoindre. Ils sont dans la boue du péché. Je vais les attirer à toi. Alors, par exemple, ça serait cette partie que j'ai appelée constat. Voilà, il y a un constat de misère humaine, il y a un constat de désillusion peut-être, il y a un constat d'échec qui peut être là. Alors si c'est dans cette situation que tu te trouves, t'es candidat à la grâce de Dieu. T'es candidat pour être élu et aimé et vivre cet amour de Dieu qui va te retirer des grandes eaux, te sauver in extremis. Parfois dans des dessins animés ou dans des films, vous avez déjà vu, hein. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, j'espère pas, mais la personne tranquille dans sa barque qui va tranquillement sur les eaux, et puis elle ne sait pas qu'après il y a une chute terrible avec sa barque, elle panique. Et ben juste à ce moment-là, Dieu, psaume 18 qui est comme ça, qui dit ceci, eh bien tu m'as retiré des grandes eaux. Dieu est prêt à te retirer, à nous retirer des grandes eaux. Alléluia, c'est Dieu à qui on peut faire, troisième partie, confiance. Dans ce psaume 22, il y a des supplications, il y a un constat de misère. Et pour moi, il y a trois parties où le psalmiste, où toi, tu peux déclarer ta confiance au Seigneur. Alors ma deuxième partie, c'est les versets 4. Pourtant, quand il y a un mot dans ta vie, quand il y a des mots dans ta vie, tu peux placer un mot, M-O-T-S, un mot comme ça, c'est pourtant. Tu es le saint. Et tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Et si je te louais in extremis, et si je prenais du temps maintenant pour chanter, attendons, laissons-nous inspirer par le Saint-Esprit pour cela. Psaume de confiance aussi, c'est ma partie 3, les versets 5 et 6, et ça c'est génial. On se rappelle ce que Dieu a pu faire dans notre vie. Petit regard dans le rétroviseur central et on regarde derrière de notre vie. Tiens, qu'est-ce que Dieu a pu faire en 2019? Ah oui, il y a eu ça. Il y a eu ça qui s'est passé. J'ai subi ça, mais Dieu est intervenu dans les dernières heures de 2019, au début 2020, par exemple. Des choses comme ça, où on s'identifie et Dieu est intervenu. Alléluia. Verset 4, 5, 6. On se rappelle le passé. Mes ancêtres se confient en toi. Ils ont crié à toi et ils ont été sauvés. Yes! Cette année 2020, s'il y a des creux de vague, juste là vers le 4, donc attendez, je suis pas voilà, au bon endroit, voilà. Les creux de vague, 4 par exemple, et aussi un peu vers 7 comme ça, juste avant que Dieu intervienne, on peut crier à lui, on peut supplier, viens à mon aide, viens à mon aide, puis vous demandez l'imposition des mains, 1, 2, 3, 15 fois si vous voulez, vous demandez la supplication des frères aussi avec vous, vous accordez au nom du Seigneur, et Dieu veut intervenir, et peut intervenir. Éphésiens 3, 20 nous dit, et c'est le psalmiste qui l'a découvert avant l'heure, eh bien que Dieu fait infiniment au-delà de ce que tu penses ou imagines. Alors on va le laisser faire. Amen. Peut-être tout à l'heure on aura des chants, je ne sais pas quels chants ont été choisis, d'abandon, de confiance. Seigneur, dans cette situation, voilà, roue libre, hein, vous mettez en descente. Luge sur la piste de ski, en descente. Seigneur, interviens. Intervient. Verset 9, recommande ton sort à l'Éternel. On va le tourner dans le sens inverse. C'est nous qui l'allons, c'est toi qui vas le proclamer. Par exemple aussi, il y a d'autres parties. Passer un petit peu plus vite là, mais la partie 5 de mon psaume 22, c'est celle où il y a une confession de foi et une intercession. Par exemple, ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche. Sois là, Seigneur, j'ai besoin de t'avoir là. Quelle attitude avait cette femme qui avait une hémorragie depuis des années et qui a touché le bord du vêtement de Jésus, hein? Elle n'avait pas la cool attitude. Hein? Elle avait la « Waouh, je le veux là. Lui, je le veux. Lui, je veux l'attraper. » Alors, elle a réussi à attraper le bord du vêtement. Mais elle a réussi surtout à attraper Jésus, le divin guérisseur. Alors, il nous faut ça cette année 2020. Pour toi, pour moi, pour nos familles. Pour Genève, pour Honnay, il nous faut attraper la personne de Jésus-Christ. Ça va, vous suivez ce graphique? C'est un peu hard hein, de faire des maths comme ça, début d'année. Alors ma partie préférée, bien sûr, c'est la partie 8, et c'est le verset, les quatre mots que je vous ai dit, et on y revient. « Tu m'as répondu ». intervention divine. J'aurais dû mettre les versets à côté, mais voilà. Bon, mon temps est limité. Tu m'as répondu. Verset 22b. Tu m'as répondu. Waouh. Est-ce que peut-être on fera ça. Enfin, on verra avec Anne tout à l'heure. Je crois qu'on fera ça. Tu m'as répondu. Dieu est celui qui répond à ta prière et à ton cri. C'est la bonne nouvelle. Tu peux crier à ton voisin, enfin crier à Dieu pour ton voisin, crier à ton voisin pour Dieu. Peut-être ça marche aussi, je ne sais pas. Crier à Dieu pour qu'il intervienne et qu'il nous sorte et que la présence de Dieu puisse s'intensifier dans notre vie. Crier à lui. Alors, je passe un petit peu plus vite. Il y a aussi des enseignements dans ce psaume. C'est les versets exhortation-enseignement, c'est la partie 24, 25, 26. Vous qui craignez l'Éternel, louez-le. Moi, il a intervenu dans ma vie, mais allez-y, vous respectez Dieu, eh bien louez-le. Vous allez voir, il va aussi intervenir dans votre vie. Tremblez devant lui, vous tous descendants d'Israël, dans le sens de voilà d'avoir une joie et un respect pour Dieu. Et puis verset 25, il ne méprise pas, il ne repousse pas le malheureux dans sa misère. Waouh. Le psaume 22, psaume de louange, psaume qui va vers l'infini, vers la révélation de ce que Dieu veut faire dans ta vie. Ah, puis il y a 11 parties en fait. On la voit la 11e, voilà. Et puis ça finit tellement c'est exalté, ça finit avec une adoration comme dans l'Apocalypse où tout le monde adore Dieu, où les princes, où les grands de la terre, ils vont se prosterner dans la poussière devant Dieu, et etc. Dieu qui conserve la vie, extraordinaire. On va vivre ça tout à l'heure. Louer Dieu, adorer Dieu. Voilà tout ce psaume. En fait, c'est un survol, hein, parce qu'on n'a pas le temps d'aller en profondeur ce soir. Mais je vous y encourage à relire ce texte et à vous l'approprier. Je termine avec. Comment on fait? Alors, précédente. Attendez, je reviens à zéro. Voilà. Mon sommaire. Ah non, c'était pas celui-là. On va y arriver. 4 sur 4. Non, pas ça. T'arrives à mettre la première dia, Audrey, s'il te plaît. Et celle d'avant. Voilà. Celle-là. Très bien. Super. Merci. Le secret des psaumes. Psaume 22. La présence de Dieu. Dieu l'a garanti avec ses promesses. Eh bien, il y a aussi trois clés. Trois clés que j'ai appelées trois révélations dans ce psaume pour ta vie. Première révélation, elle est au verset 4. « Pourtant, tu es le saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. » Jeune chrétien, on m'a mis dans les mains un livre qui s'appelait « La puissance de la louange », Merlin Carothers. Ça vous dit quelque chose. L'auteur est un peu systématique dans son approche de Dieu, mais n'empêche, il décrit, il est aumônier militaire, comment Dieu peut intervenir dans des situations grâce à la clé de la louange, la clé de David. Eh bien, ce soir, je t'invite à saisir, vraiment, dire oui, ce soir, je vais louer Dieu, avec une décision, hein, une entame d'année où on décide de louer et d'adorer Dieu pour ce qu'il est. Et bien, c'est le verset 4, première clé. Deuxième clé que je trouve dans ce psaume, c'est le verset 6. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, donc c'est une piqûre de rappel. « Ils criaient à toi et ils étaient sauvés. » On peut crier à Dieu et lui supplier et il va intervenir. Et toute la parole de Dieu est intervention divine, finalement, dans notre humanité. Donc, première clé, la louange. La deuxième, une supplication sincère. Et la troisième, dans tout ça, eh bien, c'est le verset 25. Et ça, c'est pour chacun ce soir, j'espère, un baume. Verset 25, « En effet, il ne méprise pas, il ne repousse pas le malheureux dans sa misère, il ne lui cache pas son visage, mais il l'écoute quand il crie à lui. » Eh bien, c'est que Dieu nous aime. Waouh, quelle révélation, vous allez me dire. Mais c'est vrai, Dieu t'aime. Dieu m'aime. Laurent, Dieu t'aime. Tu mets ton prénom. Dieu m'aime personnellement. La preuve, c'est qu'il intervient et il sauve. Son nom, c'est le Sauveur, c'est Jésus-Christ. Et il nous sauve de nos péchés. Eh bien, il y a tout l'aspect aussi messianique dans ce psaume, qui est une description du Messie souffrant. Et en même temps, on a le Messie glorieux, pour ceux qui aiment ces thèmes de théologie, le Messie souffrant et le Messie glorifié. Et ça se retrouve dans 1 Pierre 3,18 et Philippiens 2,6. Voilà, ça sera enregistré, donc vous pourrez réécouter ça et étudier de votre côté si vous le souhaitez. Alors, mon graphique, on revient aux maths. Ce qui est extraordinaire dans la parole de Dieu, c'est qu'elle est vivante. Ça veut dire que dans l'échelle du temps, j'y arrive. Voilà. Lorsque en bas, j'ai écrit le mot temps, je me suis dit que ce psaume, il est assez fabuleux parce que je peux le prendre à mon échelle sur une journée, par exemple, où je me réveille, ça va pas, je supplie Dieu, et puis tac, il me fait monter dans sa présence, où je découvre la louange, etc. Mais ça peut être aussi sur l'échelle d'une période, par exemple, de souffrance. Vous avez appris que vous êtes malade, vous souffrez dans votre corps. Eh bien, ce psaume 22, prenez-le comme celui qui va accompagner votre vie dans ce processus du mieux-être et de la bénédiction que Dieu veut accorder. Voilà, on monte comme ça dans la présence de Dieu. Cette présence s'intensifie. Et puis, le mot temps, il peut être aussi à l'échelle d'une nation. Et je pense au peuple juif, par exemple, qui a crié à Dieu pour un Messie. Et Dieu a envoyé son Fils, le Messie, souffrant et glorifié. Et il est intervenu. Et puis, il continue d'intervenir dans l'histoire de ce peuple et dans son avenir. Et ça peut être, pourquoi pas, au niveau de Honnay, où Dieu va intervenir alors qu'on crie à lui pour qu'il intervienne. Et il l'a fait dans cette fin d'année, je pense. Il a agi puissamment dans cette célébration de Noël passée. Et c'était formidable. Christ, la croix. Et c'est la parole de Dieu qui est vivante. Ça peut être à l'échelle de ta famille, ça peut être à l'échelle de l'Église, ça peut être à l'échelle de toute l'année 2020, par exemple. Ou chaque mois imprégné de cette présence de Dieu, et pourquoi pas du psaume 22, où on va voir sa grâce et sa gloire se manifester. Est-ce que vous êtes d'accord de sauter à pieds joints dans cette mathématique divine? On pourrait dire ça comme ça, ou dire oui, ben Seigneur, voilà, j'en suis là, je suis peut-être dans le creux de courbe, au sommet de la courbe, peu importe. Certains peuvent être en haut, etc. Eh bien, il y a encore un parcours à découvrir, et des belles choses. Je nous y encourage. Dieu nous prend là où on en est. Ne te compare pas à ton frère ou ta sœur qui peut-être semble plus avancé que toi dans la sanctification, le caractère, la puissance, etc. Mais là, Dieu te rejoint là où tu en es, avec la foi que tu as. La foi que tu as. Et il nous prend aussi en tant que communauté là où nous en sommes, et il va nous amener plus loin en 2020.